franceinter.fr.
Demain matin, nous avons notre première séance des psychanalyses.
Mais ça va pas la tête.
Yeah. Il faut vaincre tes terreurs.
Ça demande psychologie, doigté, souplesse.
Réchiste à penser.
Je pense que t'es un ouf, toi.
Ah, je suis zinzin. Je suis zinzin.
Bonjour, ravi de vous retrouver dans Ça va pas la tête. On s'intéresse ce matin aux troubles bipolaires. Nous connaissons tous des hauts et des bas dans nos humeurs, mais certains d'entre nous vivent des montagnes russes émotionnelles très fortes, alternant phases d'excitation intense et périodes de dépression profonde, passant en règle générale de l'incendie de forêt au tas de cendres froides. Depuis quelques années, les médias, l'édition parlent de cette maladie spectaculaire que l'on appelait jadis la maniaco-dépression. Nous verrons ce que recouvre exactement cette maladie, quelles sont ses origines, ses symptômes, les conséquences sur le plan personnel. Sommes-nous tous potentiellement bipolaire? Comment soigne-t-on ces troubles de l'humeur? Et puis nous évoquerons l'ouvrage de Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit, qui racontait le trouble bipolaire dont souffrait sa mère.
France Inter, Ali Rebi.
Il est complètement fou ce mec.
Ça va pas la tête.
Saul, tu es là.
Comment allez-vous, Carrie?
Ça y est, c'est l'heure, on y va.
On va où?
Travailler. Il faut y aller, on doit foncer tout de suite à l'anglais. Il faut qu'il comprenne, Saul. Tous les mouvements de Nazir en vert suivent une période jaune très calme et précèdent la période violette. C'est méthodique, monstrueux, important. Et surtout, ça en dit.
D'accord, je vais augmenter les anxiolytiques, ça vous apaisera.
J'ai pas besoin d'être apaisée. Dis-le-lui. Dis-le-lui, s'il te plaît.
Carrie, je te reconnais pas, c'est pas toi.
Bien sûr que si, c'est moi.
Non, j'arrive pas à te suivre. Tu parles beaucoup trop vite. Tes pensées se bousculent. Toutes ces idées que je comprends pas.
Un extrait de la série américaine Homeland qui met en scène l'agent de la CIA Carrie Mathison qui souffre en secret de troubles bipolaires. Bonjour docteur Marc Masson.
Bonjour Alain.
Ravi de vous accueillir. Vous êtes psychiatre, coordinateur médical de la clinique du Château de Garches et vous venez de publier au PUF dans la collection Que sais-je, un très très pédagogique, Les troubles bipolaires. Carrie Mathison, c'est un beau personnage bipolaire.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Dans l'extrait qu'on vient d'écouter, d'ailleurs, il y a une phrase où on perçoit qu'elle est dans un état d'excitation et qu'elle-même ne reconnaît pas comme étant pathologique. Donc ça, c'est, je trouve, très, très bien rendu.
Pouvez-vous nous donner une définition très simple du trouble bipolaire que nous développerons, bien sûr, tout à l'heure?
Alors, le trouble bipolaire, c'est une maladie cérébrale qui se caractérise par des phases pathologiques, émotionnelles, alternant des phases de dépression profonde. Alors ça, c'est un tableau de symptômes que nous connaissons plus, enfin, qu'on se représente plus facilement. Et puis, à l'inverse, et là, pour le coup, c'est moins classique, si je puis dire, puisque ça touche moins de personnes, des phases d'excitation importantes, des phases même d'agitation. D'ailleurs, c'est le sens étymologique du mot maniaque, c'est pas le mot maniaque au sens où on l'entend d'habitude de bien ranger ses affaires, c'est maniaque au sens grec, c'est-à-dire une agitation, un délire, et donc des alternances, soit de phases dépressives, soit de grandes crises d'excitation ou d'excitation plus atténuée qu'on appelle alors les hypomanies.
Et avant les années 1980, le corps médical parlait plutôt de maniaco-dépression.
Tout à fait, oui, le terme de maniaco-dépression, de maladie maniaco-dépressive, on a dit à un moment aussi psychose maniaco-dépressive, a prévalu de la fin du 19e siècle jusqu'aux années effectivement 70, début d'années 80. Et c'était une maladie. Alors, ce terme avait le mérite d'être assez explicite et en même temps assez très stigmatisant. Et donc, à la demande des associations de patients et aussi de la communauté scientifique, on a opté pour cette appellation de trouble bipolaire.
Et c'est une maladie, un trouble qui est inscrit dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le fameux DSM, la Bible des psychiatres.
Alors, c'est pas la Bible des psychiatres. Si vous voulez, c'est le manuel diagnostique et statistique de l'Association américaine de psychiatrie.
Mais qui est utilisé par beaucoup
alors,
de psychiatres
qui est,
en
qui
Europe.
Qui est utilisé, si vous voulez, dans les protocoles de recherche depuis de nombreuses années, dans ces éditions successives. Et puis, qui influence effectivement la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé, qui, pour le coup, a une autorité internationale. Alors, ce manuel, il se voulait au départ essentiellement pour la recherche. Et puis, au fur et à mesure mesure des éditions, il se complète, il s'étoffe et constitue plus finalement effectivement un manuel de la psychiatrie américaine.
Marc Masson, le trouble bipolaire est très médiatisé ces dernières années. La preuve, nous consacrons une émission à cette maladie mal comprise, médiatisée, oui. mais mal comprise.
Tout à fait. Alors ça, c'est un des aspects du changement de nom, si je puis dire. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a 30 ans, vous ne m'auriez pas invité pour parler de la maladie maniaco-dépressive.
J'étais adolescent à l'époque.
Oui, moi aussi d'ailleurs. Mais donc si vous voulez, ce changement de nom a permis effectivement de déstigmatiser la maladie et en même temps, il a perdu en signification parce que effectivement, nous avons tous une humeur bipolaire qui oscille entre le pôle du plaisir, du bien-être et celui de la douleur. C'est la fameuse définition de l'humeur du professeur Jean Delay. Du coup, on peut tous finalement se dire, bah, au fond, moi, effectivement, ce matin, j'étais patraque, j'avais pas envie de me lever. Cet après-midi, j'avais une pêche, une patate infernale. Donc au fond, est-ce que je serais pas un peu bipolaire quand c'est pas notre conjoint qui nous le dit, enfin, ou notre belle-mère, etc. Bon. Alors, nous avons tous une humeur bipolaire, c'est sûr, mais d'une certaine façon, heureusement, nous ne souffrons pas tous d'un trouble bipolaire qui touche 2 à 3% de la population générale, ce qui, pour la France, affecte environ 1 million, 1,5 million de personnes.
Bonjour Agathe Le Noël.
Bonjour.
En duplex de France Bleu, Fréquenza Mora, Ajaccio, vous avez publié chez Odile Jacob « Qui suis-je quand je ne suis pas moi ?» Une bipolaire témoigne. Agathe Le Noël, vous avez été diagnostiquée bipolaire à l'âge de 19 ans ?
Oui, c'est ça, à l'âge de 19 ans, et c'était une chance, puisque quand on diagnostique quelqu'un, souvent ça prend du temps. Et moi, j'ai été diagnostiquée tout de suite, ce qui m'a permis de tout de suite démarrer dans un processus de recouvrement de la santé mentale. Donc j'ai été diagnostiquée à l'hôpital à Paris et je me suis rendue toute seule à l'hôpital parce que je sentais que quelque chose n'allait pas et qu'une amie m'avait dit « tu vas pas bien, tu parles trop, tu dors pas, tu manges pas ». Et je suis allée toute seule aux urgences de l'ANAC à Paris.
Alors avec la médiatisation des troubles bipolaires au cours de ces dernières années, avez-vous constaté que le regard sur cette maladie avait évolué ?
Oui, oui, tout à fait. Depuis quelques années, on en parle beaucoup. Comme on parlait du pervers narcissique, là, on parle des bipolaires. Mais je pense que c'est très bien de pouvoir en parler librement, parce qu'il y a une espèce de honte à porte qu'on porte quand on a ce genre de trouble de l'humeur. Alors, je pense qu'il faut pas du tout avoir honte de ces sautes d'humeur, etc.
Quelles sont les idées reçues qui vous agacent le plus quand on évoque les troubles bipolaires, Agathe Le Noël ?
Bah, c'est le yo-yo émotionnel, c'est quand même pas ça non plus. Enfin, ça dépend des gens.
C'est pas les montagnes russes, comme je l'ai dit dans l'introduction de.
Si, c'est ça. C'est les montagnes russes, effectivement, mais peut-être pas à ce point. Enfin, c'est spectaculaire, ça, c'est vrai, hein, dans l'extrait que vous avez diffusé
dans
l'émission. Oui, c'était un peu ça. De Homeland.
Marc Masson, les idées reçues qui vous agacent en tant que psychiatre ?
Alors, les idées reçues qui m'agacent en tant que psychiatre, c'est qu'au fond, ce serait une invention justement de la psychiatrie américaine, ce qui est absolument faux. Hein, la description, la conception actuelle, elle remonte à la fin du 19e siècle, mais il y a des écrits bien antérieurs médicaux qui remontent jusqu'à l'Antiquité, ouais. Qui nous montrent que c'est une maladie qui a toujours existé. Et voilà, donc c'est pas une invention pour faire vendre des médicaments. Je dirais que ça, c'est l'aspect un des aspects qui me gêne le plus. Et puis l'autre, c'est effectivement ce que vient de dire Agathe, même si heureusement ça évolue positivement, c'est le tabou, la stigmatisation dont peuvent être sujets les personnes qui souffrent de cette maladie, soit au travail, soit dans leur vie personnelle.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Jeune et fougueux directeur du magazine Lire. Alors je ne sais pas si le trouble bipolaire, la maniaco-dépression a beaucoup intéressé les écrivains. En tout cas, ce fut une maladie au centre du récit de Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit, publié en 2011 chez Lattès.
Oui, c'est un roman magnifique de Delphine de Vigan où elle évoque le destin de sa mère, Lucille, et dont on va découvrir. Elle raconte dans ce livre ce destin, mais aussi la façon dont elle, en tant qu'enfant, a grandi auprès d'une mère bipolaire. Et je crois que c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est de voir ces deux facettes, à la fois celle qui souffre et celle les gens autour d'elle, l'entourage qui va souffrir aussi de l'incompréhension.
Et on reviendra également sur le roman qui a inspiré le film Happiness Therapy, qui parle du trouble bipolaire. N'hésitez pas à réagir sur Twitter, hashtag ça va pas la tête, ou à l'adresse ça va pas la tête@radiofrance.com. Ça va pas la tête, réalisé par Céline Hila, préparé par Lorraine Bess et Agathe Taillandier, avec l'aide de Laetitia Farine et de Théo Denmat.
Se répondent et qu'on se retrouve juste toi et moi. se détache et que les mots ne viennent pas. Et je sens bien que je me prends mal, que tout ça c'est pas normal, que tu voudrais la version sous-titrée. Laisse-moi voir ce qui reste à voir, emmène-moi vers le grand soir, te souffler si tu veux bien m'écouter. Un petit peu toi et moi, je sais plus, je sais pas.
Paradis, toi et moi.
Ça va pas la tête ?
C'est quoi son problème ?
Ali Rebéi.
Il faut l'enfermer, il y a les fils qui se touchent.
Ça va pas la tête ? Sur France Inter.
9h21 et on s'intéresse ce matin aux troubles bipolaires avec le psychiatre Marc Masson, avec Agathe Le Noël qui souffre de bipolarité et du journaliste Julien Bisson.
Non, pas le maître. Ils vont te duper, te faire du mal, te mentir.
Le maître est mon ami.
Non, tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime.
Je n'entends rien. Je n'entends rien.
Meurtrier.
Va-t'en.
Que je m'en aille.
Je te déteste.
Que serais-tu devenu sans moi ? Colin ! Colin ! Je nous ai sauvés. Nous avons survécu grâce à moi.
Le personnage de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, adapté de Tolkien, et qui semble atteint du trouble bipolaire. Je ne sais pas s'il est vraiment atteint, docteur Marc Masson, mais enfin bon, voilà. Ça, quand on a évoqué au bureau des personnages bipolaires, on a tout de suite pensé à Gollum. Alors Marc Masson, je rappelle que vous avez publié Les Troubles Bipolaires au PUF. Alors vous le disiez tout à l'heure, hein, notre humeur varie au cours d'une même journée, d'une même semaine. On balance entre joie et tristesse, euphorie et abattement, au gré des circonstances de la vie, mais rien de plus normal.
Absolument, rien de plus normal. Alors, en même temps, quand une personne souffre d'un trouble bipolaire, il y a ces phases très caractéristiques, soit de dépression qui dure donc au moins 2 semaines et le plus souvent plusieurs semaines, ou d'excitation, donc au moins plusieurs jours. Et quand ce n'est pas traité avant les traitements, par exemple, les crises maniaques duraient plusieurs mois. Mais entre ces crises, on peut quand même présenter certains symptômes et notamment une certaine instabilité émotionnelle. On parle d'hyper-réactivité émotionnelle, c'est-à-dire un même stimulus, un même événement ne va pas avoir le même impact sur le tout à chacun et sur une personne qui souffre d'un trouble bipolaire, même quand sa maladie est bien contrôlée. Il reste cette hyper-réactivité des régions cérébrales qui produisent les émotions et qui hyper-fonctionnent, on pourrait dire, si vous voulez.
Agathe Noël, en duplex d'Ajaccio, à partir de quel moment vous êtes rendu compte que les sautes d'humeur dont vous étiez atteinte, eh bien, étaient pathologiques?
Bah écoutez, moi, comme je disais tout à l'heure, j'étais vraiment dans un système de pensée un peu différent d'habitude. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas, j'avais maigri. J'avais écrit dans des pages et des pages durant mes examens de philo. Voilà, je n'étais pas dans mon état normal. Et c'est vraiment une amie qui m'a dit « je te reconnais pas ». Et à partir du moment où quelqu'un vous dit ça, vous prenez des mesures et vous allez à l'hôpital. Je crois que j'ai bien fait.
On ne se rend pas compte de cet état hyper émotionnel.
Non. On ne se rend pas compte de l'état dans lequel on est. En fait, je pense que voilà, c'est une maladie des émotions avant tout. Et en fait, quand on est en crise, on n'a pas le sentiment continu d'être soi. Donc on passe d'un scénario à un autre, en fait. Et comme on a les délires de notre culture, on est par exemple Jésus-Christ, on se prend pour une héroïne de série télévisée, donc Carrie Mathison.
Ça voilà, vous parle, vous, Carrie Mathison dans Homeland? Ça vous a parlé? Vous l'avez vu?
Non, mais je comprends très bien ce qu'elle a vécu, je l'ai vu et c'est exactement ça, en fait, c'est très clair, je crois que les psychiatres américains ont beaucoup travaillé sur le scénario.
Marc Masson, sur ce que vient de dire Agathe Noël.
Oui, alors sur ce que vient de dire Agathe, je pense que effectivement, Agathe, d'abord bonjour, et puis vous avez eu une réaction, je dirais, lors du premier épisode maniaque, donc d'une première crise d'excitation majeure, qui a été, je dirais, très positive pour l'accès aux soins, puisque d'emblée vous êtes allé, assez rapidement, en tout cas, à l'hôpital sur les conseils de votre ami. En fait, ce qui se passe, c'est que dans une crise maniaque, surtout au début de la maladie, on n'a pas conscience d'être dans un état pathologique. Par contre, quand on est dans une phase dépressive, alors là, pour le coup, on a un hyper-réalisme, on souffre intérieurement et on est plus dans une demande de soins. Alors qu'effectivement, toute la difficulté, surtout au début, c'est que les crises maniaques, on n'en est pas conscient. Alors, très souvent, comme vous disiez, Agathe, on ne dort plus, on a des idées qui s'accélèrent dans la tête, on parle abondamment, on écrit des pages et des pages. Donc, notre comportement est perturbé, l'entourage le perçoit. Et donc, je dirais, on finit par accéder aux soins en arrivant à l'hôpital. Mais, effectivement, la conscience, qu'on appelle nous la conscience du trouble, elle est beaucoup moins bonne au début de la maladie, surtout dans une crise maniaque.
Marc Masson, qu'est-ce qu'une émotion? Un sentiment et l'humeur, qu'est-ce qui distingue ces états, ces affects? L'émotion d'abord.
Alors, l'émotion, c'est un élément qui est plus instantané qu'un sentiment. Un sentiment, il y a la notion de la permanence d'un ressenti, que ce soit un sentiment positif ou négatif. Alors que l'émotion, on est dans quelque chose de l'ordre de la réaction instantanée à un stimulus. Quelque chose qui est plus enraciné d'ailleurs dans le biologique, le sentiment étant beaucoup plus mentalisé. L'humeur est je reprends cette définition de Jean Delay parce qu'au fond...
C'est celui qui a découvert, le psychiatre qui a découvert les neuroleptiques.
Absolument. Donc c'est une disposition affective qui oscille constamment entre deux pôles, voilà, et qui peut se dérégler. D'ailleurs, un des ouvrages majeurs de Jean Delay, c'est Le dérèglement de l'humeur, où effectivement il expose, après la Seconde Guerre mondiale, sa conception à l'époque de la maladie maniaco-dépressive. Et donc il a ce sentiment finalement il y a un dérèglement cérébral à l'origine de ces phases pathologiques de dérèglement de l'humeur.
Mais si je vous comprends bien, l'oscillation de l'humeur est naturellement bipolaire. Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'humeur devient pathologique quand le thermostat, entre guillemets, est déréglé?
Oui, on peut présenter les choses ainsi, c'est-à-dire que dans le cerveau, il y a naturellement plusieurs régions qui sont impliquées dans différentes fonctions, et les régions temporales sont impliquées notamment dans la production des émotions, la mémoire, la concentration, etc. Et puis, plus en avant, dans les régions au-dessus des orbites, donc les régions préfrontales, là, on a plus une fonction de contrôle sur la production des émotions. Et donc, ce qui se passe, c'est cette étude d'imagerie cérébrale relativement récente, qui ont été réalisées au cours de la dernière décennie, eh bien on a montré que chez les personnes bipolaires, les régions temporales étaient hyperactives, et alors que les régions préfrontales, qui donc sont censées contrôler, si vous voulez, être la tour de contrôle émotionnelle, sont plutôt au repos, ou en tout cas déconnectées de ces régions qui produisent des émotions. Alors ces résultats, on les a trouvés sur des groupes de patients bipolaires, et aussi chez leurs apparentés de premier degré, c'est-à-dire les parents ou les enfants qui n'ont pas déclenché la maladie. Autrement dit, on a une prédisposition, quand on a une pathologie bipolaire a développé cette maladie un jour, elle se déclarera ou non à la faveur de certains événements. L'entrée dans les études supérieures est assez classique pour ça, parce qu'on modifie brutalement tous ces rythmes de vie, on révise, on fait des nuits blanches, etc. Et comme l'expliquait Agathe, effectivement la maladie se déclenche le plus souvent entre 18 et 25 ans, même si elle peut se déclencher un petit peu avant ou un peu plus tard au cours de la vie également.
Agathe Noël.
Oui, alors moi, je voulais dire qu'effectivement, j'étais en classe préparatoire à ce moment-là, juste avant. Et en fait, c'est le stress qui peut aussi générer ce genre de troubles. Et ce que je voulais dire, c'est que, comme le dit Philippe Jamet, qui a préfacé mon livre, on oscille entre la peur et la confiance, en général, dans la vie. Et il faut retrouver la confiance. Je pense que quand on retrouve une certaine confiance, on retrouve un calme, on sait gérer ses émotions. Et au petit à petit, à force d'avoir des crises, etc., on peut s'en sortir. Je crois que c'est très important de le dire. On peut s'en sortir et on peut mieux se connaître. Et je crois que c'est une chance, en fait, cette maladie, pour mieux se connaître. Moi, je le vois, enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir fait d'une force de mes fragilités.
Certains psychiatres, Marc Masson, parlent de spectre bipolaire, comme s'il s'agissait d'un nuancier de couleurs.
Tout à fait. Alors, bon, c'est vrai en médecine d'ailleurs, hein, c'est la question du normal et du pathologique finalement. Par exemple, pour l'hypertension artérielle, où commence le normal, etc. Où s'arrête le normal, pardon, et où commence le pathologique. Donc, pour les pathologies de l'humeur, comme effectivement l'humeur oscille chez le tout à chacun, où commence la pathologie et où s'arrête la normalité. Bon, alors effectivement, il y a des formes différentes de troubles bipolaires. Agathe, par exemple, a bien expliqué dans son livre. Agathe a souffert d'un trouble qui se manifestait par des crises maniaques délirantes. D'autres personnes vont avoir des crises maniaques suivies de phases dépressives. Donc là, on parle d'un trouble bipolaire de type 1. Ensuite, il existe une deuxième grande forme du trouble qu'on appelle le trouble bipolaire de type 2. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de grande crise d'agitation maniaque délirante, mais simplement des phases d'excitation modérées. Là encore, c'est du grec, vous pardonnez-moi. Donc, d'hypomanie, en dessous de la manie. On parlait avant aussi de manie avortée. Et puis, des phases dépressives. Alors, les deux types, ça ne veut pas dire que 1, c'est grave et 2, c'est pas grave. D'ailleurs, les deux troubles ont leur sévérité, si je puis dire. Et en même temps, on peut les soigner tous les deux. Ça, je pense que c'est très important aussi ce que dit Agathe, c'est qu'une prise en charge précoce, une bonne adhésion aux soins, un cheminement aussi psychologique, un accompagnement permet de vivre avec sa maladie. Et finalement, le spectre concerne aussi des formes plus atténuées encore que le trouble de type 2, jusqu'à certains tempéraments affectifs.
Par exemple, la cyclothymie, est-ce que c'est une forme de trouble bipolaire atténué? Dans le langage de tous les jours, on parle de caractère lunatique pour parler... Oui. Des cyclothymiques.
Tout à fait. Alors là, effectivement, c'est ce qu'on appelle les tempéraments affectifs et qui sont soit des tempéraments dépressifs, soit effectivement le tempérament cyclothymique, c'est-à-dire qu'on est au-delà des variations, je dirais, normales de l'humeur, chez tout à chacun. On n'est pas dans des phases qui vont durer, par exemple, au moins 15 jours pour les phases dépressives ou au moins une semaine pour les phases d'excitation, mais qui vont être comme ça de l'ordre de quelques jours et un peu moins amples que les phases à proprement parler de la maladie bipolaire.
Y a-t-il des caractères, des tempéraments qui prédispose à la bipolarité?
Par exemple, les tempéraments affectifs. Effectivement, les études ont montré que lorsqu'on souffre d'un tempérament affectif, donc qu'il soit dépressif, cyclothymique, on parle aussi d'un tempérament hyperthymique, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont toujours hyper dynamiques, qui sont des gens sympathiques, d'ailleurs créatifs, qui font plein de choses en même temps, etc. Donc ce tempérament hyperthymique, cyclothymique ou dépressif sont des prédispositions, effectivement, sont la traduction, on pourrait dire, dans le tempérament de ce qui se passe dans notre cerveau.
Je rentre chez moi, après avoir quitté le lycée de Bonheur, chose que je ne fais jamais. Mais ce jour-là, je m'étais engueulé avec Nancy, la directrice. Et au moment où je franchis la porte, j'entends la chanson de mon mariage. Mais bon, ça me fait ni chaud ni froid. Alors que ça aurait dû m'interpeller. J'entre, et là, qu'est-ce que je vois? Je franchis la porte, et je vois des sous-vêtements, des vêtements, et le pantalon d'un mec avec sa ceinture. Je monte, et là, je vois le lecteur DVD en marche. Et dans le lecteur, il y a le CD de la chanson de mon mariage. Je baisse les yeux, et là, je vois la culotte de ma femme par terre. Je lève les yeux, et là, je la vois nue, sous la douche. Alors je me dis, oh bah ça c'est cool, elle est sous la douche, ça tombe bien, elle s'attend pas à me voir, je vais peut-être même aller la rejoindre, on baisse plus sous la douche, peut-être qu'aujourd'hui on le fera. Je tire le rideau et ping, il y a cet enfoiré de prof d'histoire titulaire. Alors ouais, j'ai pété un câble, j'admets que j'ai failli le tuer, mais est-ce que c'est une raison pour me clouer au pilori et dire que je suis comme mon père? Je crois pas.
D'accord. Vous voulez bien me parler d'une chose que vous avez faite avant ou après?
Environ une semaine avant l'incident, j'ai raconté à la police que ma femme et son prof d'histoire volaient du fric au lycée pour après me faire porter le chapeau, alors qu'en réalité, c'était faux, je délirais.
Et plus tard, à l'hôpital, on a découvert qu'on ne m'avait pas... diagnostiqué bipolaire.
Oui, avec saute d'humeur et pensée extrêmement bizarre en cas de stress intense, ce qui, Dieu merci, est rare. Et là, je me suis rendu compte que, waouh, j'étais confronté à ça depuis toujours, en fait. Et j'avais eu aucun suivi médical, j'avais géré ça tout seul, sans aucune aide, et... en gros, ça a été « Tiens, bon, accroche-toi » pendant toutes ces années.
Ça a dû être très dur.
Oui, c'est sûr que ça fait beaucoup gérer quand on ne sait pas ce qui se passe.
Un extrait du film Happiness Therapy de David Russell en 2012 avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. C'est un film adapté du roman Le bonheur entre les lignes de Matthew Quick, publié au livre de poche. Un roman qui traite de la bipolarité, Julien Bisson.
Oui, oui, c'est le bonheur entre les lignes, vous savez. Donc, parce que le titre original, c'était Silver Linings Playbook. Je sais pas pourquoi en France, on a l'habitude de traduire des titres anglais par d'autres titres anglais. Donc, Silver Linings Playbook, Le bonheur entre les lignes. Et donc, oui, c'est un romance entre Pat, donc un professeur bipolaire, largué par sa femme après avoir tabassé son amant, et Tiffany, qui est une jeune veuve décidée à participer à un concours de danse. Très beau livre, très beau film, puisque ce sont deux blessures qui se rencontrent, deux personnages un peu très mal dans leur basket et qui vont justement réussir à s'approcher parce qu'ils se reconnaissent dans leurs fractures intimes. Donc voilà, vous avez sans doute vu le film, je vous recommande de lire le livre aussi qui vaut tout à fait la peine.
Marc Masson, vous avez vu Happiness Therapy ?
Oui, j'ai vu ce film, et tout à fait. Ce qui m'a touché dans le film, c'est la réaction des parents quand ils recueillent chez eux leur fils qui donc sort prématurément de l'hôpital, parce que finalement les parents supportent assez mal le fait de le voir enfermé, si je puis dire, dans un service de psychiatrie. Et c'est souvent le cas d'ailleurs pour des proches. C'est très difficile de voir son enfant, là, en l'occurrence. Donc, ils le recueillent à la maison et en même temps, ils sont complètement désemparés parce qu'effectivement, il est insomniaque, il raconte tout et n'importe quoi. Enfin, voilà. Et le désarroi de ses parents, cette scène, je la trouve assez, assez touchante, effectivement.
N'hésitez pas à réagir sur Twitter, hashtag ça va pas la tête ou à l'adresse ça va pas la tête @radiofrance.com.
First day of the run. Let the game begin. Show me how to stand the cold sun and the bright sun. Second day coming on. Let me take your hands. You will understand the cold sun and the bright sun. Flowers and again, you'll never fall down. Go on the run. I love you sometimes and again, again. You'll never fall down. Go on the sun. The hard land and the warm hand. Last day coming down. Which way do we go? Take it to the end. The dark time and the light sound. Goodbye to my friend.
You'll never.
Inspecteur Clouseau.
Oh là là, j'ai pas envie d'être dans ce bar. Il est sordide. En même temps, ça lui donne un petit côté branché. Non, il est vraiment chouette ce bar.
Je suis moche, je ressemble à rien, j'ai des grosses fesses. Mais il est plus beau que celui de Kim Kardashian. J'ai vraiment le plus beau derrière du monde en fait.
Mais qu'est-ce que je fais là avec elle? Elle doit me trouver nul, nul, nul. Non, en fait, je sais qu'elle m'adore. C'est normal, je suis exceptionnel comme mec.
On est vraiment fait pour être ensemble, je le sens. On va se marier, avoir 3 enfants, Charlie, Lola et Sophie. Mais je serai jamais capable de m'en occuper. Ils vont rater leurs études et devenir chômeurs, et ce sera de ma faute.
Ah, je me sens vraiment bien avec elle.
Je me sens vraiment bien avec lui, mais maintenant, non.
Ah oui, moi aussi ça me le fait, j'ai plus envie de la voir. On est vraiment fait pour être ensemble.
Si vous n'aimez pas vos troubles psychologiques, quelqu'un les aimera pour vous. Psychotique, le site de rencontre pour bipolaire exigeant.
Pensez quand même à vous synchroniser pour être dans la même humeur en même temps.
Ça va pas la tête.
C'était l'indispensable instant réclame, la fausse pub quotidienne de François Audouin. Et c'est évidemment une caricature, hein, docteur
oui,
Marc
Masson. Oui, je confirme, c'est bien une caricature.
Une belle caricature. Et on s'intéresse ce matin aux troubles bipolaires avec vous, Marc Masson, psychiatre, avec Agathe Le Noël, qui souffre de bipolarité depuis Ajaccio, et puis avec le journaliste Julien Bisson. Marc Masson, quels sont les facteurs génétiques du trouble bipolaire?
Alors en fait, il y en a au moins une dizaine. Ils sont d'ailleurs communs la plupart du temps avec d'autres pathologies du cerveau. Et ils vont, si vous voulez, modifier l'organisation de certaines régions cérébrales, notamment des régions qui produisent les émotions, comme je disais tout à l'heure, dans les régions temporales et les régions en avant du cerveau qu'on appelle les régions préfrontales. Donc ce sont des gènes qui sont responsables donc de l'organisation des synapses. Les synapses sont les espaces virtuels entre les neurones, et notamment aussi dans la neurotransmission, de la transmission de certaines molécules qui circulent entre les neurones, notamment la sérotonine. Voilà, donc le cerveau, en tout cas pour les pathologies psychiatriques, eh bien fonctionne en réseau, hein, les neurones sont interconnectés, et donc ce sont ces réseaux qui vont dysfonctionner en partie pour des raisons génétiques.
Est-ce que le trouble bipolaire est lié à des anomalies du développement cérébral dès la vie intra-utérine ?
Alors, dès la vie intra-utérine, bon, évidemment, notre organisme se structure pendant les 9 mois de la grossesse et surtout pendant le premier trimestre. Donc, il y a probablement des petites anomalies déjà. Et on a cette traduction notamment par le fait qu'il y a des anomalies de la peau, puisque la peau et le système nerveux sont issus de la même couche embryonnaire. Et donc, on retrouve des anomalies discrètes au niveau, par exemple, des plis cutanés. Et c'est le reflet d'anomalies aussi qu'on peut corréler cela, si vous voulez, des anomalies dans les sillons cérébraux. Donc ça, c'est vrai dans la maladie bipolaire, c'est vrai aussi dans d'autres pathologies du cerveau.
On est en train tous de regarder nos plis cutanés.
Absolument, absolument. Donc là, vous dire qu'on diagnostique la maladie bipolaire dans la ligne de la main, évidemment, c'est un pas que je ne franchirai pas. Mais c'est pour effectivement évoquer le fait qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'organisation de notre organisme au niveau cérébral qui se met en place très tôt, mais qui va ou non s'exprimer à la faveur de certains traumatismes, de certains changements brutaux des rythmes de vie, ou de certains stress violents, comme l'a évoqué Agathe tout à l'heure.
Agathe Le Noël, depuis Ajaccio.
Oui, mais en fait, moi ce que je veux dire aussi, c'est que j'aime beaucoup Henri Bochot, cet écrivain belge, qui disait « Dans le champ du malheur, planter une objection ». Et j'ai écrit un livre pour retrouver une certaine dignité. Et voilà, donc c'est un livre à double entrée, qui permet à la fois de comprendre les crises, d'être au cœur des crises, d'être dans ma tête, mais également un appareil critique que j'ai mis en note de bas de page. Donc je pense que c'est important de se saisir de son histoire et d'en faire quelque chose et de faire, voilà ce que je disais tout à l'heure, une force de ses fragilités.
Marc Masson, quel est le rôle des traumatismes affectifs pendant l'enfance dans la survenue du trouble bipolaire? Alors, il existe par exemple un lien entre les abus émotionnels subis pendant l'enfance et la survenue du trouble bipolaire à l'âge adulte?
Alors, bon, vous savez, ce sont toujours la question des associations statistiques. Donc effectivement, les études ont montré que des antécédents d'abus affectifs, avec toute la définition de l'abus affectif émotionnel, hein, c'est difficile à conceptualiser, mais enfin bon, en tout cas, de nombreuses études, ça a été répliqué, ont montré que des enfants qui ont subi des abus émotionnels pendant l'enfance seront plus enclins à développer un trouble bipolaire que les enfants enfants qui n'en ont pas subi. Donc après, est-ce que effectivement il y avait une sensibilité plus importante chez ces enfants du fait de cette prédisposition cérébrale qui fait que effectivement certains événements ont été vécus de manière très blessante, qui ont occasionné du coup des fractures sur une fragilité, ou est-ce que ce sont ces événements qui sont à l'origine? Bon, ça c'est un petit peu délicat, mais c'est probablement l'association des deux. Et beaucoup d'ailleurs de pathologies du cerveau, il y a une prédisposition, donc plutôt biologique, cérébrale, et puis l'impact de l'environnement, l'impact du vécu, l'impact de l'histoire qui va faire que la maladie va se déclarer.
Quel est le rôle du stress dans la survenue ou l'aggravation du trouble bipolaire?
Alors, les stress violents peuvent être des facteurs déclenchants un épisode, et peuvent révéler la maladie. On parle notamment, par exemple, des deuils. Hein, la perte d'un proche peut être une entrée dans la maladie, parce que le stress, bien sûr, c'est une émotion violente, mais biologiquement, il se passe aussi des choses dans notre cerveau, dans la neurotransmission des certaines molécules que j'ai évoquées tout à l'heure, des neuromédiateurs, qui va venir complètement déséquilibrer le système et effectivement pouvoir provoquer une entrée dans la maladie. Et une fois que la maladie est déclarée, c'est vrai que la gestion du stress, c'est un enjeu majeur à côté du traitement médicamenteux, de l'accompagnement, pour mieux vivre avec sa maladie. Et donc toutes les approches qui sont développées aujourd'hui, notamment grâce à la pleine conscience, par exemple, la mindfulness qu'a introduite en France notre ami Christophe André, oui tout à fait, apporte vraiment un grand bienfait aux personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire, même entre justement quand il est bien stabilisé, dans la gestion au quotidien du stress et donc dans la gestion émotionnelle.
Agathe Noël.
Oui, je pense qu'il y a vraiment à comprendre que cette maladie, ce rapport au monde qui est chronique, hein, comme la vie est chronique, donc c'est un rapport au monde chronique. Ça permet, on peut très bien vivre avec, et je crois que c'est très important de le dire, on peut vivre avec ça et avoir une vie pleine et heureuse.
Marc Masson, de nouvelles hypothèses ont vu le jour pour expliquer l'apparition des troubles bipolaires, notamment les hypothèses immuno-inflammatoires. Ça veut dire quoi?
Tout à fait. Alors ça, c'est un nouvel axe de recherche qui se développe effectivement depuis quelques années. C'est-à-dire que bon, les anciens disaient déjà que pour les pathologies du cerveau, il fallait pas considérer le cerveau indépendamment du reste de l'ensemble du corps. Donc on sait que les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire vont aussi avoir donc parfois d'autres pathologies psychiatriques, on appelle ça la comorbidité, notamment des symptômes anxieux très souvent, dans 30% des cas, des problèmes d'addiction également, dans 40 à 50% des cas, mais aussi des pathologies dites physiques ou somatiques, notamment des pathologies cardiovasculaires, des problèmes métaboliques, etc. Donc finalement, on s'est dit, est-ce qu'au fond, dans notre physiologie, dans notre système immunitaire, est-ce qu'il n'y aurait pas des anomalies qui seraient présentes en cas de troubles bipolaires? Et donc, aujourd'hui, de nombreuses pistes de recherche se développent à cet égard. On essaie d'incriminer, par exemple, l'impact de certaines infections virales soit pendant la grossesse, soit après, ou dans la petite enfance, la survenue peut-être de troubles bipolaires. Voilà. C'est une hypothèse de recherche qui est très intéressante, mais qui mérite d'être confirmée.
Agathe Noël, toutes ces hypothèses vous intéressent pour essayer de comprendre la survenue de votre trouble bipolaire?
Oui, ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que j'ai écrit un livre en lisant un peu tout ce qui s'était fait depuis les 10 dernières années. J'ai vraiment compilé un peu des informations scientifiques. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, bien sûr, c'est peut-être génétique, c'est peut-être ceci, cela. Mais moi, j'ai une petite fille qui va très bien et je suis très heureuse avec ma fille. Et je tiens à le dire parce que j'ai été un peu aidée, je suis très aidée par mes psychiatres, etc., qui m'ont fait confiance aussi. Mais je leur ai fait confiance aussi, mais j'ai une petite fille et ça va très bien.
Tant mieux. Docteur Marc Masson.
Oui, je voulais effectivement réagir sur ce que vient de dire Agathe, parce que ça c'est toujours une question très importante. Donc effectivement, ce n'est pas une maladie génétique au sens où elle se transmet irrémédiablement de génération en génération. C'est une maladie qui est liée à plusieurs facteurs, dont des facteurs génétiques. Mais effectivement, comme le dit Agathe, quand on a un trouble bipolaire, on peut mener sa vie, et notamment en l'occurrence à sa vie de maman. Et donc, dans 85% des cas, notre enfant ne présentera pas de trouble bipolaire alors que soi-même, on en a un. Donc voilà, donc je pense qu'il faut aussi dire qu'on peut mener une vie normale avec une maladie bien contrôlée et bien suivie.
Agathe Tariandier, vous êtes prof de lettres et collaboratrice de l'émission. Vous vouliez nous parler du documentaire « Gare de l'Est » d'Alexandre Planck, diffusé sur France Culture en 2014. On écoute un extrait.
En fait, moi, pendant un moment, Je faisais des crises d'euphorie et je faisais des crises où j'adorais Fabien. C'était vachement fatigant pour Fabien. Et en fait, quand j'étais toute seule au magasin, que j'avais rien à faire, j'étais là. J'étais « Allô, Fabien, mon amour, Fabien. » Et je disais à tout le monde que j'adorais mon mari. Et en fait, le psy m'a expliqué que quand tu fais des crises d'euphorie, ça te fait aimer tout le monde. Fabien, il a pas envie en ce moment. Il fait pas trop l'amour, en fait. Moi, c'est surtout des câlins. Oh, non, mais c'était bizarre, parce que c'était toujours « Je t'adore, je t'aime, tu me manques. » Je sais pas, j'avais tout le temps envie de l'appeler, lui. Je lui laissais un petit message. Enfin, j'avais l'impression de l'aimer comme au premier. Non, pas comme au premier jour, parce qu'au premier jour, ça s'est pas tout à fait bien passé, mais un peu après, quoi. Quand j'ai commencé à vraiment l'aimer. 4 septembre, c'est notre anniversaire de mariage. Ça fait 4 ans, ça va vite. Hein. Ça fait flipper parce que c'est pas trop rationnel. Hein. Mais le monde est pas rationnel. Hein.
Un extrait du documentaire de France Culture d'Alexandre Planck. Rendez-vous, Gare de l'Est, Agathe Le Taillandier.
C'est l'adaptation en fait d'un spectacle de théâtre en fiction. Donc on peut retrouver le lien effectivement sur France Culture. Ce qui est intéressant dans ce spectacle et donc dans cette mise en onde radiophonique, c'est déjà la méthode. Donc Guillaume Vincent, metteur en scène, a passé en fait entre 6 mois et 1 an avec une femme atteinte de bipolarité. Il l'a retrouvée tous les jours à Gare de l'Est pendant un temps assez long, d'où le titre Rendez-vous Gare de l'Est. Et à partir de ces témoignages qu'il a enregistrés, il a écrit un spectacle d'une heure. Et c'est vraiment en fait un spectacle sur la parole et sur les va-et-vient de la parole. C'est extrêmement fidèle, en fait il est extrêmement fidèle dans sa retranscription au témoignage de cette femme. Et donc c'est un travail voilà sur cette parole trouée, cette parole qui parfois s'abandonne, qui va extrêmement vite, qui s'emballe, parfois qui va être beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus en retrait, dans l'hésitation, dans les silences, dans les respirations. Et je trouve que c'est un très beau travail et donc du coup radiophonique, théâtral, mais aussi c'est un travail documentaire, vraiment, puisque c'est un travail qui s'inspire d'un témoignage réel, en fait. Donc c'est au croisement de la radio, du théâtre, de la fiction, mais aussi de la réalité. Et je pense que c'est un très beau témoignage sur la maladie.
Julien Bisson, à propos de témoignages, vous avez rencontré pour le magazine Lire Manu Larcenet au moment de la parution de Blast, où il évoque sa bipolarité.
Oui, Manu Larcenet, c'est quelqu'un qui parle très bien de la bipolarité, qu'il a lui-même creusé dans son œuvre avec Le Combat Ordinaire, dont il disait que ça donnait l'image de lui d'un gentiment déprimé, et donc il est beaucoup plus loin avec Blast, où là pour le coup on dépasse la simple bipolarité, et qui parle très bien de ce que c'est. Il a été diagnostiqué bipolaire vers l'âge de 20 ans, de vivre avec la bipolarité et d'avoir connu les traitements, en montrant que justement les traitements, notamment pharmaceutiques, pouvaient aider les bipolaires, mais aussi qu'il fallait accepter le fait qu'on ne guérirait pas, qu'il faut vivre avec. Il compare sa maladie à une fente dans une tasse de café dans laquelle vient se greffer beaucoup de choses, beaucoup d'angoisse, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, et que une fois qu'on a lavé cette tasse, il reste toujours cette fente au fond de la tasse. Il faut accepter qu'on ne va jamais guérir, qu'on restera toujours dans une forme d'instabilité permanente du bonheur, et qu'on doute toujours du bonheur quand on souffre de bipolarité.
Ça vous parle, Agathe Le Noël?
Oui, c'est une très belle image, mais pas vraiment non plus, parce que moi, j'ai pas l'impression de... Enfin, on dit « heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière », c'est très sympa, mais oui, ça me parle un peu, mais j'aurais dit un vivre avec, effectivement, mais on peut être dans le bonheur, enfin, moi, j'ai l'impression de vivre un bonheur absolu avec mon compagnon et ma fille, et mon entourage, qui est exceptionnel, voilà.
Marc Masson.
Oui, moi je rejoins aussi Agathe en tant que psychiatre dans ce qu'elle dit, c'est-à-dire que bien sûr c'est une maladie qui ne va pas disparaître, hein, puisqu'il y a cette prédisposition de base, mais grâce au traitement, grâce à la prise en charge, on peut retrouver une vie normale. Alors si on entend par guérison une disparition complète, y compris sur le plan cérébral des anomalies que l'on présente, non, il n'y aura pas de guérison effectivement. Mais si on entend par guérison le fait d'avoir à nouveau une bonne qualité de vie, de plus être hospitalisé, de pouvoir travailler, de mener sa vie de couple, d'élever ses enfants, alors là, si on entend guérison en ce sens, si, on peut guérir, voilà. Mais il est vrai que jusqu'au bout de la vie, et ça c'est un des enjeux sur le plan psychologique qui est quand même difficile à accepter, surtout au début, un traitement médicamenteux sera nécessaire tout au long de la vie, le plus souvent. Et ça, c'est quand même, quand on est un adulte jeune, pas du tout évident à accepter.
Marc Masson, de façon schématique, comment se manifestent les troubles bipolaires? Évoquons la manie, la phase maniaque, par exemple.
Oui.
Physiquement, alors, par exemple.
Physiquement, eh bien, comme l'a décrit Agathe tout à l'heure, donc c'est un état, c'est un embrasement intérieur.
Hein, une image. On parlait d'incendie.
Oui, j'ai pris cette image de l'incendie de forêt, et qui, donc, avec des émotions qui partent dans tous les sens, et en même temps, une excitation motrice. Hein, on ne tient pas en place, on gesticule, on déambule. Hein, donc, je crois qu'Agathe aussi évoque dans son livre le fait qu'elle déambulait comme ça sur les boulevards parisiens, ce qui est très très classique, avec des idées qui tourbillonnent dans la tête et on fait des associations sur tout ce qui passe en quelque sorte. On parle de manière vraiment ininterrompue, on parle de logorrhée,
de diarrhée verbale.
De diarrhée verbale, tout à fait. Donc c'est vraiment un état d'embrasement complètement à la fois physique et psychique.
Et les phases dépressives qui prennent plusieurs formes.
Alors,
tristesse, oui, sentiment de vide, perte de tout ressort intérieur, idées noires, rumination anxieuse.
Alors effectivement, donc là, ce sont des symptômes dépressifs, ceux que vous venez de citer, qui sont, je dirais, communs à toutes les formes dépressives. Au sein de la maladie bipolaire, il y a plusieurs formes de dépression. Il y a la dépression qui peut suivre une crise maniaque, où là, on est complètement ralenti, on est sans énergie, on n'a pas forcément d'idées suicidaires, mais en espèce de contre-coup, si vous voulez, de la phase d'excitation. Ensuite, il peut y avoir une phase de dépression telle que vous venez de le décrire. Et puis aussi, il peut y avoir des résidus dépressifs qui durent plus longtemps, qui sont souvent difficiles à prendre en charge.
Comment soigne-t-on d'ailleurs les troubles bipolaires ? On doit passer forcément par les médicaments et en particulier par le lithium ?
Alors, les médicaments sont indispensables. On ne peut pas soigner une maladie bipolaire avérée sans traitement médicamenteux. Donc, il y a un aspect biologique et puis il y a aussi les mesures psychothérapeutiques qui aujourd'hui sont très bien déployées. Sur le plan biologique, il y a deux moments dans le traitement. Il y a le traitement des crises maniaques ou dépressives, et puis il y a le traitement préventif au long cours. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que le lithium, qui est le plus ancien médicament que nous utilisons en psychiatrie, reste le médicament de référence pour prévenir la maladie, surtout le trouble bipolaire de type 1 sur le long cours. Sur le plan des psychothérapies, il y a maintenant de nombreuses psychothérapies adaptées pour le trouble bipolaire. J'ai évoqué la pleine conscience, également les thérapies cognitives et comportementales, également l'hygiène de rythme veille-sommeil. Et aussi une thérapie plus classique, je dirais, qui parfois peut aider le patient quand il en a le désir. Je pense là aux approches plus analytiques.
Agathe Noël.
Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que il existe des structures en France exceptionnelles, les CMP, les centres médico-psychologiques. Et de plus, quand je suis sujette à des crises maniaques, je vais au CAC, Centre d'accueil et de crise à Paris, dans le 6e. Et c'est exceptionnel. Et je voulais souligner, en fait, leur humanité. Voilà.
Julien Bisson, en 2011, paraissait un récit publié par Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit, qui évoquait la maniaco-dépression, la bipolarité de sa mère.
Oui, un récit tout à fait magnifique que Delphine de Vigan a écrit quelques années après le suicide de sa mère, Lucille. Lucille qui était une femme très belle, une femme mystérieuse, mais dont le mystère cachait au fond des abîmes profonds, des drames intimes terribles. C'était la troisième d'une famille de 9 enfants, une famille frappée par la tragédie, la mort de plusieurs frères, la maladie, un climat incestueux, le poids des secrets au fond, tout ce contexte qui va lui faire en sorte qu'elle va développer, à peu près à l'âge où vous parliez, vers une vingtaine d'années, des troubles maniaco-dépressifs qui vont peu à peu la faire plonger. Voilà, c'est un livre magnifique qui essaie d'approcher le mystère de cette mère, mais sans juger, sans jamais trancher. Elle dit d'elle ces mots magnifiques, « Le noir de Lucille est comme celui du peintre Pierre Soulages. Le noir de Lucille est un outre noir dont la réverbération, les reflets intenses, la lumière mystérieuse désignent un ailleurs. » Et puis il y a autre chose que raconte Delphine de Vigan dans ce roman, c'est la façon dont on grandit auprès d'une mère bipolaire, la souffrance des enfants, l'incompréhension face à ces bouffées délirantes, et puis les troubles qu'on va ensuite développer soi-même par la suite, puisque Delphine de Vigan va souffrir d'anorexie à l'adolescence. Voilà, c'est un livre superbe qui s'attache à retirer les épines de chaque mot pour bien décrire et approcher ces vies en morceaux éparpillées entre crise de démence et rares moments de bonheur. Et
j'aimerais citer ce message sur Twitter de Jessica. Et l'entourage, ma mère bipolaire refuse de se soigner, être là pour elle engendre notre propre destruction. Marc Masson, quel est pour terminer, le risque suicidaire chez le bipolaire, il est très fort?
Oui, alors le risque suicidaire est élevé dans plusieurs pathologies psychiatriques et évidemment dans le trouble bipolaire. Malheureusement, je dirais, aujourd'hui on estime qu'environ 7 à 10% des personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire vont mourir par suicide. Alors heureusement, donc il y en a une grande majorité qui ne vont pas souffrir de, enfin, mourir de cette façon. Mais c'est vrai que ça reste un enjeu très important dans la prise en charge, le dépistage des idées suicidaires, la prise en charge précoce quand il se présente des idées suicidaires.
Et pour terminer sur une note positive, Agathe Noël, j'aimerais vous citer, vous écrivez que la maladie vous a fait vaciller, souffrir, trembler, mais qu'elle a aussi été salvatrice. Merci beaucoup Marc Masson, auteur d'un très très pédagogique Trouble bipolaire au PUF dans la collection Que sais-je. Merci beaucoup Agathe Noël, vous avez publié Qui suis-je quand je ne suis pas moi, chez Odile Jacob. Merci beaucoup Julien Bisson, directeur du mensuel Lire, et merci Agathe Taillandier. À la technique ce matin, il y avait Tristan Gratalon et Valentin Azan, programmation musicale, Muriel Pérez.